À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un des dominicains les plus extraordinaires de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle, le Père Lagrange. Le Père Lagrange, dont le nom figure dans tous les dictionnaires, il est décédé en 1938, mais était né en 1855, un 10 mars, je crois, il est mort un 10 mars. Et son nom était Albert, en religion Marie. Henri Lagrange, né à Bourg-en-Bresse, est un exégète français, un frère dominicain, un père dominicain, comme on dit aujourd'hui souvent, fondateur de l'école biblique, de l'école d'études bibliques de Jérusalem et de la revue biblique. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est un homme qui m'a fasciné dans ma jeunesse par un ouvrage en particulier, L'Évangile de Jésus-Christ. C'est un immense ouvrage qu'il avait publié, si je me souviens bien, dans les années 20. Et moi, j'ai l'édition de 1948, L'Évangile de Jésus-Christ, par le père Marie-Joseph Lagrange, de son vrai nom en religion, plutôt que ce qu'on lui dit dans le dictionnaire. Et sa façon d'aborder Jésus était une façon évidemment assez critique et scientifique, mais intelligente. Ce qui lui a valu d'ailleurs une réhabilitation totale après avoir été condamné, puisque si Pidis l'a condamné, Pie XI l'a complètement réhabilité, parce que les études bibliques, petit à petit, ont fait un énorme progrès dans l'Église catholique. C'était un homme tenace que le père Lagrange. Selon lui, on devrait étudier le texte de la Bible avec autant de rigueur scientifique de n'importe quel autre. Il n'y a pas de raison de ne pas vouloir étudier la Bible de façon avec une rigueur scientifique pour mieux en comprendre le sens et la parole de Dieu. Il attachait énormément d'importance au sens et à la parole de Dieu. Loin d'être ébranlé, selon lui, la foi y gagnerait. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui déraillent. Mais ceux qui ne déraillent pas, ceux qui sont unis à celui dont il est question fondamentalement dans la Bible, qui est Jésus-Christ, on est saisi par une étude intelligente de la Bible. Et pour imposer son école biblique à Jérusalem, il a dû batailler toute sa vie durant. Le père Marie-Joseph Lagrange, c'était un précurseur, un pionnier, un savant de grande classe. Ce dominicain, acharné à défendre son projet, on peut dire a bataillé toute sa vie contre certaines autorités. Albert Lagrange est né à Bourg-en-Bresse, je vous l'ai dit, c'est dans l'Ain. Ce l'Ain, c'est pas tellement loin de Lyon, disons. L'Ain, c'est A-I-N, n'est-ce pas, c'est un département où j'ai déjà passé des vacances. Il est né là le 7 mars 1855 d'un père notaire et d'une mère qui était une pieuse chrétienne. C'était aussi une femme d'intérieur, une femme selon la tradition de l'époque, qui, d'une époque récente d'ailleurs, et qui existe encore, hein, beaucoup plus qu'on pense. Il était pensionnaire à 9 ans et demi au petit séminaire d'Autun. Autun, il y a là une belle basilique romane à visiter. Où j'ajoute une anecdote. Il y a là, au tympan, c'est-à-dire au devant de cette église immense romane, un Christ en gloire qui était sculpté à l'époque, des siècles et des siècles, et qui avait perdu la tête. Au moment de la Révolution française, on lui avait arraché la tête. Eh bien, elle a été retrouvée dans les années 40. Et je suis arrivé au moment 1950 où on venait de la réinstaller. C'était extraordinaire. Et le curé en était très fier. C'était un homme extrêmement cultivé que le curé. Je l'ai déjà d'ailleurs interviewé à la télévision. Alors, Albert Lagrange manifeste très tôt à Autun, au petit séminaire, son goût inné de la justice. Il invite un jour, avec beaucoup d'autorité, à l'âge de 10 ans, son directeur de division à observer le règlement, au lieu de se livrer à faire n'importe quoi. À 10 ans, de quoi se faire mettre à la porte. Il était un peu romantique, un peu rêveur. Même, il avoue qu'il a été peut-être à l'occasion paresseux et fantaisiste, hein, pour quelqu'un qui va être, dont la cause va être introduite à la, pour la béatification et la canonisation, hein, plus tard, c'est tout de même consolant pour nous qui sommes peut-être un peu paresseux et un peu fantaisistes comme lui. On peut changer. Mais, outre l'étude de l'allemand et de l'anglais, il se passionne très jeune pour l'étude du grec. Ce n'est que les quatre premières langues, ça, le français, l'allemand, l'anglais et le grec. Vous verrez tout à l'heure. En classe de quatrième, donc vers l'âge de 12 ans qu'il avait à ce moment-là, lui, il récite déjà des pages d'Homère par cœur. Il les explique sans aucun livre. Il est absolument un petit génie. En philosophie, à 16 ans, il ouvre Démosthène. Vous connaissez Démosthène, cet orateur athénien qui s'est empoisonné là, en 323 avant Jésus-Christ. Alors, en philosophie, donc, à 16 ans, il ouvre aussi Thucydide. Thucydide, c'est cet historien grec qui est mort vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Et tout ça sans s'être préparé. Hein. Et lors des grandes fêtes, bien, il compose des vers latins. Il compose des vers latins sur le thème du jour. Les études classiques étaient évidemment très sérieuses dans ce temps-là. Et il a su en profiter. D'autre part, le jeune Lagrange était épris de musique, de poésie, d'éloquence. Si jeune, il aime aussi lire Dante, Shakespeare, dans le texte anglais, Euripide et Platon, dans le texte. Il se délecte de Chateaubriand. Durant les mois d'été, il prend part à des excursions archéologiques avec le président d'une société savante locale et il suit son parrain Albert Falsan dans des courses géologiques. Il apprend à donner un sens aigu à son observation. Et puis, ça le fait développer beaucoup le sens du détail. Il aime les livres, évidemment. Il prend des cours de dessin. Et je vous ai dit qu'il aimait la musique, alors il prend des leçons de violoncelle. À 17 ans, il passe le baccalauréat. On faisait ça en général à 19-20 ans. Lui, 17 ans. J'ai un oncle qui l'a passé à Sainte-Marie à 16 ans, lui. Un frère de ma mère. C'est jeune, c'est trop jeune. Alors, il se présente à Saint-Cyr, à l'école militaire de Saint-Cyr, très fameuse. Mais il échoue, à l'oral seulement. Admirateur du Père Lacordaire, je vous ai fait une émission sur le Père Lacordaire, hein, le restaurateur de l'ordre des Dominicains, en France, au 19e siècle. C'est donc un admirateur de Lacordaire dont il apprécie le libéralisme. Il se lance dans les études de droit. Il veut devenir, lui aussi, avocat. Son père était notaire. À partir d'octobre 1873, à 18 ans, il se retrouve à Paris, dans un foyer d'étudiants catholiques, et il suit des cours de grec, car je vous ai dit qu'il aimait beaucoup le grec, il suit des cours de grec aux hautes études. Puis, Paris, bien c'est Paris, hein, il flâne dans les rues, il va au théâtre, il visite le Louvre, le grand musée du Louvre, il visite les églises, il y en a tellement de belles, il visite les châteaux aussi. Qui n'a pas fait ça parmi nous tous qui sommes allés en France? Il fréquente même les champs de course. Imagine, il l'avoue plusieurs années plus tard. Il écrit d'ailleurs, « Ce n'est pas une difficulté à Paris que de perdre son temps. Quand on a l'esprit curieux et qu'on s'ouvre avec joie à un monde inconnu et séducteur, séducteur. » Mais il réserve aussi du temps aux bonnes œuvres. Il est membre de la Société de Saint-Vincent de Paul. Il visite les pauvres. Et le dimanche matin, il fait même le catéchisme de jeunes ramoneurs. J'explique pour ceux qui se demandent ce que c'est que des ramoneurs. Ce sont simplement les nettoyeurs de cheminées. Ils enlevaient la suie, vous savez, toute cette croûte noire qui risquait de bloquer les cheminées. Car on chauffait dans des foyers, hein, la fumée sortait par les cheminées à l'époque. Je le dis pour les jeunes qui ne connaissent que le chauffage électrique. Alors, ils préparent ces jeunes ramoneurs à la première communion. Il passe finalement sa licence en droit. Il accomplit un an de service militaire à Soissons, puis il prépare sa thèse, qui est plutôt complexe. Je vous donne pas le titre de sa thèse, c'est terrible. Après un voyage en Algérie, où il a retrouvé son frère militaire, Albert Lagrange, le futur père Marie-Joseph Lagrange, décide d'entrer au séminaire d'ICY, I2SY, là, à Paris. Un grand séminaire de Paris. Afin de se préparer, c'était son plan, vraiment, à la vie austère des dominicains. Parce qu'il rêve de se faire dominicain, puis de s'engager dans cette vie. Il y rêve depuis longtemps. Il prend l'habit, d'ailleurs, de l'ordre de Saint-Dominique, au couvent de Saint-Maximin, un peu dans le sud de la France. C'est magnifique. J'y suis déjà allé, il y avait tellement de dominicains, là, c'était magnifique. C'était très impressionnant. Très impressionnant. Dans leurs costumes, les offices étaient de toute beauté, comme dans un grand monastère. Alors, il prend cet habit à 24 ans, le 6 octobre 1879. Le gouvernement français a décidé de supprimer les congrégations religieuses, et les dominicains doivent quitter Saint-Maximin pour Salamanque, en Espagne. Une ville à visiter, Salamanque, avec une belle université. Passionnant, visiter Salamanque. Et là, le jeune Albert Lagrange, qui est devenu le frère Marie-Joseph Lagrange, il fait de l'Écriture sainte son étude préférée. Il apprend l'hébreu à l'université. Il étudie, je vous l'ai dit, qu'il aimait les langues, écoutez bien ça, donc il apprend l'hébreu, ça s'ajoute. Il étudie seul le syriaque et l'arabe. Avez-vous idée du génie de ce dominicain? Apprendre seul le syriaque et l'arabe, c'est extraordinaire. La théologie de saint Thomas d'Aquin, puisée dans le texte même de la Somme théologique. Il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la Somme théologique. C'est cette immense œuvre de saint Thomas d'Aquin. Vous avez déjà parlé de lui, il est mort en 1274. C'est une œuvre qui était restée inachevée, mais elle était déjà immense. Ça a longtemps été considéré dans notre Église comme l'ouvrage fondamental pour exposer la pensée théologique et philosophique de l'Église catholique. Alors donc, la théologie qu'il puise dans le texte même de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin demeure l'essentiel du programme de ses études. Après son ordination sacerdotale à Zamora, en Espagne, le 22 décembre 1883, le père Marie-Joseph Lagrange enseigne durant 2 ans l'histoire de l'Église, et en 1886, c'est le retour en France. Il a 31 ans. Il est nommé professeur d'écriture sainte et de philosophie au couvent dominicain de Toulouse, dans le sud de la France, où il enseigne 2 ans. Il désire acquérir de meilleurs instruments pour étudier la Bible, et là, ça commence. Il gagne Paris, puis Vienne, où il apprend l'égyptien ancien, il ajoute ça, l'assyrien, pas le syrien, mais l'assyrien, l'arabe qu'il perfectionne, et l'hébreu rabbinique cette fois-là. Imaginez, en plus de l'hébreu ordinaire, du syriaque, de l'arabe, etc. Bon, c'est là qu'il reçoit, le 5 février 1889, une lettre de son provincial qui l'informe qu'il était cédé pour quelques années au couvent Saint-Étienne de Jérusalem afin d'y fonder une école d'écriture sainte. Et c'est là qu'il aura l'idée de fonder. Hein. Et les objections se présentaient nombreuses pour lui, le climat chaud de l'Orient. Est-ce qu'il pourrait y travailler? Poser la question. Et puis que faire de sérieux, loin des bibliothèques du monde savant? Mais il était obéissant, le père Lagrange, puis il s'embarque. Il ne trouve à Jérusalem que 3 pères, des religieux prêtres, c'est-à-dire, et 3 frères convers, qui sont installés dans un ancien abattoir turc. Mais il découvre la Palestine. La Palestine, et ce pays le séduit aussitôt. Il écrit « J'avais tant aimé le livre de la Bible, et maintenant je contemplais le pays. Aucun doute ne subsista dans mon esprit sur l'opportunité de pratiquer les études bibliques en Palestine. Alors, le père Lagrange trouve là l'occasion de fonder vraiment une école d'études bibliques en Palestine. Je vous signale que le chant grégorien que vous venez d'entendre, c'est le chant grégorien selon la liturgie dominicaine, les dominicains ayant conservé certaines particularités à la liturgie traditionnelle. Je ne sais pas s'ils les ont encore conservées au moment où je vous parle. J'espère que oui, c'était intéressant d'en voir les légères différences. De toute façon, on peut se poser la question pour le père Lagrange, comment il a pu faire pour attirer des étudiants en Palestine, c'est-à-dire en Israël d'aujourd'hui, à Jérusalem. Alors heureusement, est arrivé quelque chose. Pour maintenir puis augmenter l'influence française à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères de France avait obtenu qu'on dispense du service militaire, qui durait normalement 3 ans à l'époque, les jeunes qui, établis hors de l'Europe avant l'âge de 19 ans, y passeraient 10 années. Alors, ils avaient 10 ans à passer en dehors de la France pour répandre la culture française, disons. Dès les débuts de l'année scolaire, des novices et des étudiants français sont arrivés dans ces conditions à Jérusalem pour y poursuivre leurs études. C'est dire qu'en un an seulement, dès le 15 novembre 1890, il est arrivé en 89, l'école biblique de Jérusalem était inaugurée officiellement en présence du consul de France. C'est incroyable, en un an. Il s'agissait d'une école pratique des hautes études bibliques. Et l'endroit où c'était situé, là, ne pouvait évidemment être que Jérusalem, la ville sainte, où l'on pouvait encore découvrir, parce que l'Orient d'alors avait bien peu changé depuis l'Antiquité, on pouvait encore découvrir de toutes sortes de traces qui permettaient de lire avec beaucoup plus d'intelligence et de clarté, on pourrait dire, les livres anciens, qui demeuraient souvent fermés, parce que étrangers à ceux qui les lisaient, toutes les coutumes. Je me souviens d'avoir montré à un Algérien qui venait d'arriver ici, Jésus de Nazareth, et puis il disait, ah, mais c'est comme chez nous, c'est comme on vit chez nous, et c'était encore les coutumes en Algérie, dans le village d'où il venait, les choses très simples de la naissance de Jésus, et tout ça, et les vêtements. Curieux, Et alors, la connaissance approfondie des lieux là-bas, puis les visites qu'on faisait de façon assez systématique des monuments qui étaient encore en place, l'étude sérieuse aussi des langues, puis les usages qui étaient encore pratiqués là-bas en Palestine. Là, quand je parle de la Palestine, on dit Israël aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on disait la Palestine. Et tout ça, ça permettait d'acquérir une bien plus grande compétence. C'est vrai que ça rend vivant. J'ai déjà lu, moi, des textes de la Bible, ici même, là où les événements s'étaient passés dans l'Ancien Testament. Et on est assis sur des ruines. Vous direz, ce ne sont que des ruines. Oui, mais ça rend, je ne sais pas pourquoi, le texte beaucoup plus vivant. À plus forte raison quand les traces sont encore plus évidentes. Et dans le programme, des études, là, on accorderait une très large part à l'exploration du pays, au cours d'histoire et de géographie de la Palestine, puis de la topographie de Jérusalem aussi, puis de l'exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous savez tout ce que c'est l'exégèse, c'est l'interprétation d'un texte dont le sens est obscur, et puis qui doit faire appel à plusieurs sciences, si on veut en préciser exactement la portée de ce texte-là. C'est ça de l'exégèse, c'est de l'analyse, si vous voulez. Quand il s'agit des écrits bibliques, l'exégète étudie, lui, le texte original qu'il a sous les yeux. Puis il tient compte, là, des variantes entre les divers manuscrits, puis il cherche à identifier, le contexte historique qui l'a produit. Il précise aussi les caractéristiques, des aspects littéraires qu'il présente, il élabore la théologie qu'il suppose, etc. Puis toutes les sciences humaines pratiquées avec méthode peuvent être mises donc en œuvre, afin de mieux analyser toutes les richesses d'un texte qui est toujours ouvert à différentes lectures que l'on peut en faire. Et l'Église a comme ça de très grands spécialistes. L'Église catholique a de si grands spécialistes pour étudier la Bible que c'en est fantastique aujourd'hui. Mais il y en a qui vont trop loin. Il faut qu'ils soient ramenés un peu vers une étude plus, disons, orthodoxe. Alors donc, ils font des études d'hébreu aussi, d'arabe, puis d'assyriologie. La assyriologie, c'est l'étude de l'antiquité assyrienne, babylonienne si vous voulez, puis parfois sumérienne, puis même acadienne. Acadienne, A2KA. C'est rare qu'on parle de ça. J'ai déjà fait une émission là-dessus à la télévision de Radio-Canada. Et ça a fait ses premiers pas durant la seconde moitié du 19e siècle, donc à peu près au moment de la naissance du Père Lagrange. Et cette étude d'assyriologie a pour but de mieux connaître les civilisations les plus anciennes de la Mésopotamie, actuellement l'Irak, là, qui ont laissé des textes puis des monuments qui peuvent éclairer l'histoire puis la culture d'Israël à l'époque biblique. Hein. Ça nous aide beaucoup, ça, la assyriologie. Alors, l'école biblique de Jérusalem, fondée par le Père Lagrange, est établie dans un couvent près du lieu traditionnel du martyr de Saint-Étienne. Souvenez Saint-Étienne, je vous en ai déjà parlé. On le fait au lendemain de Noël, hein. Premier martyr. Puis, l'école va trouver là un cadre spirituel particulièrement adapté au but qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire l'étude croyante et lucide, scientifique aussi, puis ecclésiale de la Bible. Il ne s'agit pas de sortir de l'Église, il s'agit de faire une étude dans l'Église, scientifique, croyante et lucide. Programme admirable. Alors, les exigences rigoureuses qu'entend honorer le Père Lagrange, ça vient s'insérer dans un contexte de crise, qu'il faut malheureusement affronter si l'on veut aller de l'avant et ouvrir des voies nouvelles à l'exégèse catholique. Les travaux de savants protestants allemands à cette époque mettent en question, ou remettent en question, l'enseignement traditionnel de la Bible. Que l'Église catholique continue à dispenser dans ses explications des textes sacrés. Alors comment faut-il réagir? Doit-on sacrifier l'enseignement de l'Église afin de se soumettre jusqu'au bout aux exigences de la critique, là, de l'analyse vraiment sérieuse, ou se réfugier dans une espèce de conservatisme absolu, faire semblant d'ignorer les mises en question radicales qu'entraînent inévitablement les progrès d'une grande exégèse scientifique qui vient surtout des protestants allemands. Alors la démarche du Père Lagrange, qui est un homme de foi, un dominicain attaché à l'Église, obéit à quelques principes d'interprétation qu'il a toujours défendus, même s'il ne les a peut-être pas suffisamment explicités. Hein. Il serait y avoir de contradictions entre le vrai puis la révélation biblique. Alors, il entend nous transmettre, la révélation biblique entend nous transmettre le vrai. Puis le vrai que découvre la critique historique, c'est ça qui compte. Il le dit lui-même, un fait historique ne peut être en contradiction avec une affirmation de la Bible. Alors on peut donc jouer à fond le jeu de la critique, dit-il. Et là, la recherche de la vérité ne doit jamais avoir peur de ce qu'elle va découvrir. Mais dans sa pratique, de cette lecture, de cette façon de lire très scientifiquement la Bible, le savant catholique n'a pas à renier ou à mettre entre parenthèses les affirmations de sa foi. Ben, c'est évident, hein? L'exégèse biblique, au contraire, s'enracine au départ dans la foi. Elle s'exerce au bénéfice de la foi. Puis elle s'achève en un regard de foi, c'est la conception du Père Lagrange et des grands exégètes catholiques. La raison se met donc au service de la foi. Recevoir la Bible comme parole de Dieu n'empêche nullement se livrer en même temps au travail de la critique la plus exigeante. Hein? Et si le Père Lagrange reconnaît que les paroles de l'Évangile pénètrent son âme plus profondément quand il les entend proclamer dans le cadre de la liturgie que lorsqu'il les retrouve dans une discussion de revue, il admet aussi que les débats scientifiques sur telle ou telle parole difficile de l'Écriture, ça demeure pour lui indispensable à l'exégèse catholique, qui doit chercher, l'exégèse catholique doit chercher à acquérir au moins autant de compétences que ceux avec lesquels il discute, hein, protestant, il déclare « La foi étant sauve, pourquoi le travailleur catholique ne chercherait-il pas simplement la vérité avec autant d'ardeur ?» Et s'il se peut autant de compétences que les autres, ne considérant pas l'état actuel des opinions reçues par les écrivains catholiques comme intangibles jusqu'au jour où leur position aurait été forcée. Alors Lagrange, Père Lagrange, est trop passionnément attaché à l'Église pour ne pas espérer qu'elle sorte de la situation d'infériorité intellectuelle. C'était tragique à l'époque où elle est, à cette époque-là, sur certains points. Et puis il est trop préoccupé par un souci pastoral pour ne pas publier des éclaircissements qui vont confronter la foi de ceux qui ne peuvent que sourire des niaiseries défendues par certains esprits traditionnels étroits. Et là, il va, c'est Jean Guiton d'ailleurs qui a rendu ce témoignage, il est souverainement juste de remercier le Père Lagrange pour un service primordial rendu à plusieurs universitaires chrétiens qui avaient été ou qui auraient pu être écartés de la foi par la critique biblique. Et nous allons voir que le père Lagrange était bien selon la ligne de Jean Guiton. Alors, pour mettre en œuvre les principes qui lui tenaient à cœur, pour diffuser la Bible, mais le fondateur de l'école biblique décide donc de créer une revue spécialisée qui traiterait des problèmes de l'exégèse biblique, de l'analyse de la Bible. Et le premier numéro de la revue biblique est paru en 1892, hein, ça fait déjà plus de 100 ans, et les numéros se sont régulièrement succédés jusqu'à nos jours, toujours, à tous les 3 mois. Une expédition dans le désert du Sinaï a permis au Père Lagrange de vérifier qu'une bonne connaissance du pays est particulièrement utile pour mieux comprendre la Bible. Ça lui apprend aussi comment les principes d'interprétation pour une lecture éclairée des textes sacrés peut être appliqués, quoi. Après avoir parcouru le désert, où il y a des vallées plutôt abruptes, où il n'y a pas d'eau, il devient impossible de croire, d'après lui, que des millions d'êtres humains, les Juifs, là, ont pu y circuler en procession durant 40 années, comme le dit la Bible au livre des Nombres, au chapitre 1, verset 46, et au chapitre 2, verset 32, où l'on ne compte pas les femmes et les enfants. Problème, n'est-ce pas? Alors, notre explorateur revient bien lourd, bien inquiet, très inquiet. Il en souffre, mais il comprend très vite qu'une certaine manière de retracer l'histoire se trouve dans l'Ancien Testament et qu'il faut concevoir, quoi, un mode d'écrire en poursuivant un autre but que celui de rapporter des faits avec la plus parfaite exactitude, parce que la parole de Dieu exprime ou s'exprime au moyen d'une culture particulière. Elle est le reflet d'une façon humaine de penser et d'écrire dont la lecture des livres saints doit nécessairement tenir compte. Alors, il écrit, d'ailleurs, au maître général des Dominicains, à ce moment-là, « Vous me dites que c'est sur la liberté de chercher et de dire, hein, parce qu'il est angoissé un peu. » Alors, il dit, ça date de 1904, ça, une période très dure, très très dure, très difficile dans l'Église, hein. Toute la crise moderniste, il dit, vous me dites n'avoir pas de lumière et attendre que l'autorité suprême vous stimule, parce que le maître général lui-même est inquiet. Alors il lui dit assez sévèrement, il est un peu dur avec son maître général, qui est le supérieur général des Dominicains. Il est pas méchant, mais disons qu'il est franc, c'est ça. Il lui dit, permettez-moi de vous dire là-dessus toute ma pensée, car je ne puis pas non plus marcher dans les ténèbres. Mieux vaudrait s'arrêter net. Mais il m'est permis de vous le dire. Je ne crois pas que vous manquiez de lumière spéculative. Je ne crois pas non plus que tout dans l'Église doive dépendre de l'initiative du pape. Il est le juge suprême. S'il faut qu'il donne le branle à tout, l'Église n'est plus qu'une machine où tous les mouvements sont réglés administrativement. On sait par exemple qu'aucun ordre religieux n'a été fondé par l'initiative du Saint-Siège. C'est vrai quand on y pense. Le Saint-Siège n'a jamais fondé un ordre religieux. C'est toujours venu de la base et le Saint-Siège accorde, oui ou non, l'autorisation. Alors, il ajoute le Père Lagrange à son maître général, beaucoup n'ont été approuvés qu'en triomphant, les ordres religieux, là, de certaines premières résistances de la part du Saint-Siège. Il ne s'agit plus pour nous d'entreprendre une œuvre. Qu'il y ait lieu de craindre, d'être inquiet et préoccupé au début, bon, je le confesse. Et moi-même, j'ai passé par des anxiétés puis des angoisses sans nom. Mais, le jour où Léon XIII m'a nommé consulteur de la commission biblique, a voulu se servir de la revue biblique en stipulant qu'elle garderait sa liberté, en consacrant par conséquent notre ligne d'action, n'était-il pas évident que le Saint-Siège se tournait vers nous? Il n'est guère moins clair que, maintenant, on essaie d'obtenir de Pie X une marche rétrograde, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui luttaient contre le père Lagrange dans l'Église et qui s'adressaient au pape Pie X pour qu'il soit condamné. Alors, le père Lagrange continue en disant, et c'est très important, il n'y va pas de main morte à son maître général, « Nous sommes inondés de productions catholiques niaises, badaudes. » Tout passe avec approbation. C'est un déluge. Que voulez-vous? Suis-je trop orgueilleux? Mais il me semble pourtant que j'entends toujours ce cri de l'Église, qu'il faut que nous ne passions pas pour des nigauds qui ne savent que s'encenser mutuellement. C'est des simples que j'ai pitié, car ils iront infailliblement, sauf des grâces extraordinaires, à ce qui leur paraîtra la science poursuivie librement, au lieu de la consigne du parti pris, des habiletés, des subterfuges, de la timidité devenue routine. Bon, j'ai pu me tromper, mais si vous me dites manquer de lumière, je ne refuse pas d'être examiné. Et il termine en disant, « Il est cependant un point sur lequel je suis sûr de ne pas me tromper. Je ne peux avancer que si vous le jugez bon. » Il veut être obéissant à son maître général. S'il s'agit d'une permission extorquée à force d'instance, je n'en veux pas. Pardonnez-moi la liberté vraiment excessive de cette lettre. Après 15 ans, il me semble, ça fait 15 ans qu'il est à Jérusalem, après 15 ans, il me semble qu'on doit être fixé. Je ne me sens plus la force d'écrire des mémoires pour obtenir la permission de m'exposer au pire traitement dans la presse. Je dirai, comme d'autres, que je sollicite, d'étudier l'Écriture sainte. Je ne me sens pas la vocation de martyr. Alors, lors d'un congrès scientifique international de catholiques à Fribourg, en 1897, le père Lagrange pose les principes, il avait posé les principes d'une herméneutique, c'est-à-dire la science qui donne, disons, les principes d'interprétation du texte biblique. Hein, c'est ça l'herméneutique. L'herméneutique, ça fixe le nombre de sens possibles. L'herméneutique, ça définit la méthode pour découvrir le sens véritable. L'herméneutique, ça précise la manière de l'exposer. Alors, l'exégèse consiste à expliquer le texte selon ces principes-là. Alors donc, lors de ce congrès, le père Lagrange pose les principes d'une herméneutique théologique de la Bible en distinguant le projet de salut que la parole de Dieu révèle et garantit. Puis, l'historicité des récits bibliques qui relèvent d'autres façons de lire la Bible, d'autres critères de lecture. Et à propos du Pentateuque, vous savez, c'est le nom grec là, pour les 5 rouleaux, là, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Et le tout début de la Bible, c'est ça, le Pentateuque. Alors, ça vient du mot 5, penta. Alors, à propos du Pentateuque, par exemple, père Lagrange, je soutiens que l'autorité religieuse qu'on lui accorde ne se fonde pas sur le fait qu'il a été écrit par Moïse, ce qu'il est impossible d'admettre, mais sur l'inspiration divine des rédacteurs du texte. Voyez-vous, il croit profondément à l'inspiration divine des rédacteurs du texte, tel qu'il est finalement reçu par l'Église. Il est fidèle à l'Église. Cette communication suscite un grand émoi, parce qu'il dit que c'est pas Moïse, dans les esprits conservateurs. Alors le père Lagrange est accusé d'être rationaliste et protestant. Mon Dieu, pauvre lui. Alors il conçoit alors le projet d'une collection de commentaires scientifiques des livres de la Bible, où l'on accordera la plus grande attention à la critique littéraire, textuelle et historique, à la géographie, à l'archéologie, pour aboutir finalement à la théologie, qui est le but ultime de tout travail d'étude exégétique de la Bible qu'il a entrepris. Il veut
atteindre la théologie, c'est-à-dire Dieu, la compréhension de Dieu, la compréhension de son amour, le don soi à Dieu, etc. Une théologie mystique, vraie, solide. Alors il propose d'ouvrir lui-même la série avec un commentaire de la Genèse, mais Rome lui en interdit la publication. Il rédige alors une présentation du livre des Juges en 1903, et la collection des études bibliques compte plus de 100 volumes aujourd'hui. Un petit livre sur la méthode historique, publié en 1903, qui est vite réédité, où le père Lagrange présente à un plus large public des théories qu'il a déjà exposées depuis plusieurs années, suscite de violentes attaques et bien des calomnies contre son auteur, accusé de partager les opinions de Loisy. Un jour, je vous parlerai peut-être de Loisy, ce terrible et malheureux prêtre français qui a enseigné l'hébreu et l'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris, puis a utilisé des acquis scientifiques de l'époque, mais a déraillé, lui. Il voulait mieux préciser le contenu des livres de la Bible, mais il a remis en question les données essentielles de ce qu'on appelle la révélation, puis a considéré que les dogmes, les vrais dogmes fondamentaux, on pouvait les interpréter comme ci, comme ça. Ça existe encore dans l'Église aujourd'hui, je connais des moines, des prêtres, en tout cas, qui enseignent ça. Il fut un des chefs de file du modernisme, et Pidis, excommunié en 1908, Loisy, mais c'était quand même un homme très, très cultivé. Alors donc, il était accusé de partager les opinions de Loisy, puis les livres venaient justement d'être mis à l'index. Dès le début du pontificat de Pie X, en 1908. Alors, le père Lagrange, à qui on interdit de publier sur la Genèse, est considéré comme un perpétuel suspect. Alors, il est trop épris de critiques modernes et trop peu soucieux de l'autorité ecclésiastique, dit-on. On l'accuse comme ça. Alors, pour désarmer les suspicions, là, il décide de renoncer entièrement à l'étude de l'Ancien Testament. Il se consacre à celle de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai tant aimé son livre, L'Évangile de Jésus-Christ, dont je vous ai parlé au début. Alors, parce que l'étude de l'Évangile jugeait à l'époque moins périlleuse, c'était moins dangereux. Il publie un commentaire de Saint-Marc en 1910. En 1912, le père Lagrange est exilé à Paris, avec l'interdiction d'enseigner. Pauvre lui. L'année suivante, il revient à Jérusalem. Il rédige en 20 ans, de volumineux commentaires sur l'Épître aux Romains en 1916, aux Galates, sur l'Évangile selon Saint-Luc, Saint-Matthieu, puis Saint-Jean, on est rendu en 1925, une synopse en grec en 1926, l'Évangile de Jésus-Christ que j'ai en main en 1928, le judaïsme avant Jésus-Christ, puis une introduction à l'étude du Nouveau Testament, ça se termine en 1937. Il s'agit des premiers ouvrages scientifiques d'exégèse catholique parus en français. On lui doit énormément à ce père Lagrange. Et dès 1896, à 41 ans, puis très fidèlement depuis, le père Lagrange rend régulièrement compte des dernières découvertes archéologiques en Palestine, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, dont il est élu membre et correspondant français en 1903, à 48 ans. En 1920, à 55 ans, cette même Académie reconnaît une école française d'archéologie à Jérusalem, distincte de l'école biblique de Saint-Étienne, comme elle s'appelle, mais qui se rattachait à celle-ci par la personnalité de son directeur, puis la collaboration de ses professeurs. Alors le père Lagrange, que tant de combats menés n'ont jamais réussi à abattre, meurt au couvent de Saint-Maximin, le 10 mars 1938, âgé de 83 ans. Et 5 ans plus tard, l'encyclique Divino Afflante Spiritu du pape Pie XII du 30 septembre 1943 approuve et encourage les études bibliques menées à l'école de Jérusalem. Et je vous dirai jusqu'à quel point il a été finalement entièrement accepté par l'Église, réhabilité et reconnu comme un des plus grands hommes de l'histoire de l'Église récente. L'école biblique et archéologique de Jérusalem, comme on l'appelle maintenant, occupe les bâtiments de style médiéval à l'emplacement du site présumé où Saint-Étienne, le premier martyr, aurait été tué. Je ne saurais trop vous enjoindre, si vous allez à Jérusalem, faire un pèlerinage, d'aller visiter ça. Vous y verrez souvent même des Québécois, des Canadiens, qui y étudient. Vous les verrez à la bibliothèque, penchés sur des textes. C'est assez impressionnant. Alors, je vous ai dit que le père Lagrange meurt le 10 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1938, à l'âge de 83 ans. Et que 5 ans après sa mort, Pie XII publie l'encyclique Divino Afflante Spiritu. C'est une encyclique qui reconnaît la valeur d'une exégèse scientifique, si vous voulez, d'une analyse scientifique de la Bible. Donc, une exégèse scientifique pour l'interprétation des livres saints. 50 ans après l'encyclique Providentissimus Deus de 1893. En 1962, le Concile Vatican II a ouvert des perspectives encore plus larges avec la constitution Dei Verbum, le Verbe de Dieu. L'encyclique Divino Afflante Spiritu de 1943 approuve donc, comme je vous ai dit, encourage les études bibliques telles qu'elles sont menées à l'école de Jérusalem. Paul VI a salué dans le père Lagrange, écoutez bien ça, un grand maître de l'exégèse. Un homme dans lequel ont brillé de façon exceptionnelle la sagacité critique, la foi et l'attachement à l'Église. C'est ce que disait Paul VI. Il y a l'ouverture du procès de canonisation, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, je le rappelle pour ceux qui seraient en retard. Le procès de canonisation de ce grand maître, qu'est le père Lagrange, ce maître exemplaire, et cette ouverture du procès nous invite aujourd'hui à reconnaître qu'il avait vu juste, puis à admirer aussi la sainteté de sa vie. C'était un homme brillant, intelligent, cultivé, extrêmement brillant. Mais on peut être humble, on peut être un saint comme ça. J'en ai rencontré. Le pape est un homme brillant et intelligent, malgré toutes les attaques qu'il reçoit. Et combien de grands savants dans l'Église ont été des saints, à commencer par saint Thomas d'Aquin. Parmi ses étudiants, le père Lagrange avait recruté les futurs professeurs de son école. Il reconnaissait au soir de sa vie que les disciples dépassaient le maître. Une équipe de savants a ainsi été constituée. Spécialistes dans les différents domaines de l'exégèse puis de l'archéologie biblique. Il suffit d'évoquer quelques noms. Jossen, qui est mort en 1962, qui s'était intéressé plus particulièrement à l'ethnographie, qui est la science dont l'objet est l'étude et la description des activités, disons, d'un groupe humain, là, déterminé, dans tous les domaines, hein, les domaines matériels, culturels, économiques, sociaux, c'est ça de l'ethnographie, ça, ethnos, nation, un groupe, hein, ethnographie. C'était un spécialiste de l'arabe, parfait arabisant, un très grand voyageur. Il était aussi épigraphiste, une science qui a pour objet l'étude et la connaissance des inscriptions. Il était photographe aussi. Il a parcouru inlassablement la Palestine, Jaussen. J-A-U-2-S-E-N. Il a traversé aussi la Transjordanie, où il s'est mêlé à la population en bravant tous les dangers, pourtant fort nombreux à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ça devient dangereux avec les guerres. Et de ses expéditions dans le Negev et au Djebel, ou le Djebel Druze, là, à Petra aussi, c'est fantastique, aller à Petra, et en Arabie du Nord, il a rapporté des notes précieuses sur les coutumes des tribus bédouines, dont on trouve d'ailleurs dans la Bible des équivalents. Et avec la collaboration du père Savignac, mort en 1951, son compagnon, il déchiffre et il publie de nombreuses inscriptions. Et ces deux explorateurs ont constitué un fonds exceptionnel d'archives photographiques. Le fameux père Vincent, aussi mort en 1960, est devenu le spécialiste de l'archéologie palestinienne. Il suivait lui-même les activités des principaux chantiers de fouilles et en interprétait les résultats. Avec le père Abel, il a conçu le projet de réaliser une vaste enquête sur l'histoire de Jérusalem et de ses monuments. Il s'est chargé, de l'archéologie, puis le père Abel de l'histoire. Père Abel a rédigé aussi une géographie de la Palestine qui reste une œuvre magistrale. Puis, il perd Dorme aussi. s'est distingué plus particulièrement dans le domaine assyriologique, la traduction et l'exégèse de l'Ancien Testament. Il a déchiffré la langue d'Ougarit. D'Ougarit? Oui, une ville ancienne, 2000 ans avant Jésus-Christ, sur la côte nord de la Syrie, aujourd'hui Ras Shamra, où l'on a retrouvé à partir de 1929 des tablettes d'argile qui portent sur une langue sémitique, une écriture très particulière. Et puis, une deuxième génération de professeurs qui a assuré la relève avec le père Devaux, le fameux père Devaux, V-A-U-X, historien en Israël biblique, les institutions, l'archéologie aussi, a pris à l'école biblique de Jérusalem une plus grande importance grâce au père Devaux. Et parmi les fouilles entreprises, on peut rappeler seulement celle de Tel el-Farah, puis celle de Kirbel Qumran. Qumran, là, j'ai pas le temps de vous expliquer, tout le monde sait, les manuscrits fantastiques, c'est les manuscrits qui y ont été découverts. Ils ont rendu ce site célèbre dans le monde entier. Puis là, le père Benoît, mort en 1987, il y a 10 ans, un exégète et théologien, qui a publié de nombreux articles ayant trait au Nouveau Testament, au problème de l'inspiration scripturaire, là, de la Bible, de l'herméneutique dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis de la topographie historique de Jérusalem, des savants en quantité industrielle chez les Dominicains et ailleurs. Et plusieurs autres membres appartiennent à cette même génération. Le Courroyer, qui a publié régulièrement des articles érudits permettant de préciser les rapports entre l'Égypte antique puis les écrits bibliques. Puis a Tourné, un assyriologue et exégète de l'Ancien Testament, qui a été considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du psautier. Puis le fameux père Boismard, qui est déjà venu donner des conférences ici au couvent Saint-Albert-le-Grand, qui a apporté, en 1916, de nouvelles explications pour rendre compte de la rédaction littéraire des évangiles synoptiques. Saint-Jean, les Actes des Apôtres, l'Apocalypse, le père Dreyfus, probablement d'origine juive, qui en 1918 s'est intéressé plus particulièrement à la théologie biblique. En somme, l'ensemble du corps professoral de l'École biblique de Jérusalem, on peut dire, les constitué aujourd'hui par des représentants d'une troisième génération, qui est héritière du passé, mais même d'une quatrième génération presque, héritière du passé, responsable du futur. Et puis, elle essaie de maintenir la rigueur scientifique, le grand esprit de foi du père Lagrange, le service de l'Église, les exigences sur lesquelles le père Lagrange a fondé son œuvre. Je me suis inspiré pour tout ça d'un article du père Jean-Luc Vesco, successeur du père Lagrange. Comment ne pas admirer, jusqu'au fond de notre cœur, ce grand ordre des Dominicains qui a tant donné. Tant donné à l'Église, et qui, j'espère, suscitera des vocations ici même, où nous te supplions, Maître, d'être notre secours et notre protecteur, et sauve ceux des nôtres qui sont opprimés. Relève ceux qui sont tombés, montre-toi ceux qui pleurent, guéris les malades et fais revenir les égarés, rassasie ceux qui ont faim. Que tous les peuples sachent que tu es le seul Dieu. Que Jésus-Christ est ton enfant, mais que nous sommes ton peuple et les brebis de ton bercail. Ne prends en compte aucun péché de tes serviteurs, ni de tes servantes, mais purifie-nous de ta purifiante vérité. Amen.